Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du blog de Pilates Yoga. Aujourd'hui, j'attaque la saison 2 du podcast et cette saison est consacrée à la mythologie hindoue. Et à travers elle, nous allons redécouvrir les postures de yoga, certaines postures de yoga d'une manière différente. Nous allons un petit peu voir l'histoire de ce que ces postures évoquent. Et aujourd'hui, je vais commencer par la fabuleuse histoire de Garuda, le roi des oiseaux. Alors son histoire, on peut dire qu'elle est digne d'un film hollywoodien, tant elle est remplie d'aventures, de suspense et de rebondissements. C'est une histoire qui est incroyable et à travers cette histoire, on est encore plus attaché à cet oiseau majestueux, cet oiseau qui, dans la mythologie, symbolisait la monture du dieu Vishnu, le dieu Vishnu étant celui qui veillait sur l'équilibre du monde. Alors cet oiseau, bien sûr, il s'agit de l'aigle royal, l'aigle royal qui est représenté avec un visage blanc, un nez aquilin, des ailes rouges et un corps doré. Alors pourquoi je choisis de commencer par l'histoire de Garuda? Eh bien tout simplement parce que d'une part, l'aigle royal c'est un oiseau que je trouve complètement fascinant quand on le regarde voler, quand on le regarde attraper ses proies avec une telle précision. C'est vrai que c'est un oiseau que je trouve complètement majestueux. Il est pour moi grandiose. Et la posture aussi, plus on la pratique et plus elle nous renforce dans notre volonté, dans notre ancrage. C'est une posture que je trouve très puissante quand on la pratique régulièrement. Alors commençons. Alors comme toutes les histoires, je vais commencer par le fameux « il était une fois ». Et donc, ça ne va pas échapper pour cette histoire-là. Donc, il était une fois, il y a des milliers d'années, donc dans un univers qui pour nous est inconnu aujourd'hui, et bien, dans cet univers-là, vivaient des créatures qui étaient plus incroyables les unes que les autres. Et dans un palais, dans un majestueux palais, et bien, vivait un sage qui avait épousé deux sœurs. Donc ces deux sœurs étaient ses épouses et il les aimait tendrement l'une autant que l'autre. Mais par contre, les sœurs, elles étaient devenues des rivales et elles avaient fini par se haïr mutuellement. Ce qui rendait notre sage évidemment triste. Et comme il voulait les satisfaire, il demanda à chacune d'elles de faire un vœu. Et ce vœu, il s'empresserait de le réaliser, de l'accomplir aussitôt. Donc ce que firent nos deux épouses. Donc la plus jeune d'elles formula le vœu d'enfanter 1000 fils. Et elle voulait que ses fils aient une force inégalée jusqu'alors. Enfin, elle voulait qu'ils aient une force qu'on n'avait jamais vue jusqu'à maintenant. Et puis l'aînée, elle eut comme souhait d'en avoir que deux et non pas 1000. Et elle voulait que la force et la bravoure de ses deux fils surpasseraient de loin celle de ses demi-frères. C'est-à-dire des 1000 fils voulus par la cadette. Et donc, notre sage exauça les deux vœux. Donc, la première épouse, qui était la plus jeune, elle enfanta 1000 œufs. Et ces œufs, au bout de 1000 ans, se changèrent en 1000 serpents. Donc, c'est vrai que les années, elles sont longues. Elles ne correspondent pas trop à nos années terrestres. Mais bon, c'est de la mythologie, hein. Et la deuxième, elle n'eut que deux œufs, donc l'un des deux œufs disparut, et l'autre œuf, lorsqu'il est clos, il devint une majestueuse créature, à la fois mi-homme et mi-aigle, et puis son état était tel, il était tellement étincelant, qu'il aveuglait les dieux. Donc, c'est pour cela que cet oiseau majestueux, on l'appela Garuda. Garuda qui signifie le dévoreur. Le dévoreur, en raison de cette luminosité si étincelante. Mais les dieux, ça ne leur plaisait pas trop d'avoir une créature aussi lumineuse. Ils voyaient cela d'un mauvais œil, l'arrivée d'une telle créature. Et alors, ils lui demandèrent de réduire son éclat. Et donc, Garuda obéit, évidemment. Et son éclat fut réduit de 1000 fois. Donc, il étincelait 1000 fois moins. Mais néanmoins, sa luminosité était encore très intense, malgré cela. Alors, un jour, il fut pris dans un guet-apens. Donc, c'était la mère des serpents, hein, sa tante, qui lui avait tendu un guet-apens à lui et à sa propre mère. Et tous deux, donc, furent enfermés et ils furent condamnés à devenir des esclaves. Mais, Garuda était une créature, on l'a dit, avec plein de bravoure, mais c'était aussi quelqu'un de très intelligent, de très perspicace. Et donc, dans sa clairvoyance, il réussit à négocier sa liberté, mais pas à n'importe quel prix. Donc, le prix de sa liberté était très cher payé. Et... Qu'est-ce qu'il proposa en échange de sa liberté? Eh bien, il proposa à ses demi-frères de leur donner le nectar de l'immortalité, qu'on appelait Amrita. Et ce nectar d'immortalité, évidemment, il faut savoir qu'il était très très bien gardé. Il était d'abord dans des contrées très lointaines, donc il fallait aller jusque là-bas. Il était encerclé par des flammes telles que c'était quasiment impossible de franchir ces flammes pour le récupérer. Et en plus, il était surveillé par un dieu. Donc, il y avait beaucoup d'étapes à franchir avant de récupérer ce fameux nectar d'immortalité. Mais bon, Garuda... dans sa bravoure et sa vaillance, proposa quand même à ses demi-frères de leur remettre. Donc, voici notre Garuda déployant ses ailes majestueuses, traversant mille et une contrées très lointaines et hostiles, aussi hostiles les unes que les autres. Puis, il arriva donc devant cette fameuse barrière de flammes. Et donc, il réussit quand même à éteindre ses flammes. Comment ? Eh bien, il s'abreuva dans les rivières alentours. Il arriva à récupérer l'eau des rivières dans son large bec. Et par là, la légende dit qu'il put éteindre l'incendie. Enfin, les flammes qui protégeaient Amrita. Donc, une fois que les flammes étaient éteintes, il fallait en plus se soustraire à la vigilance et à la puissance des dieux. Donc, il fallait faire preuve de beaucoup d'intelligence pour dérober ce fameux nectar qui était si bien gardé. Donc, il vola très très vite. Il se fit tout petit, il arriva à se recroqueviller sur ses ailes, mais à voler très très vite. Et ainsi, il put dérober le fameux nectar au roi des dieux Indra, qui se mit alors à ses trousses. Donc, il arriva à remettre Amrita à ses demi-frères serpents. Mais Indra, intercepta le nectar. Et donc, les frères serpents n'en eurent quasiment pas, seulement une petite goutte qui était tombée au sol. Donc, les serpents étaient avides et ils se ruèrent sur ce nectar. Donc, sur cette petite goutte, donc comme elle était en quantité insuffisante, eh ben, évidemment, ils ne devinrent pas immortels. Mais par contre, c'est à partir de là qu'on dit qu'ils purent muer. Ils muèrent sans cesse, c'est-à-dire que au lieu d'être immortels, ils arrivent à se renouveler d'une façon quasi permanente depuis ce jour-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire mythologique quand on pratique? Eh bien, d'une part, cette histoire va nous révéler les qualités développées par Garuda. Et si on fait le lien avec les qualités que le yogi acquiert lorsqu'il pratique la posture qu'on appelle Garudasan, eh bien, on peut espérer développer des qualités, en tout cas de clairvoyance, de concentration, de volonté, autant que Garuda n'en avait. Et quand on regarde la posture qui est complètement... les bras s'enlacent les uns l'un sur l'autre, pareil pour les jambes, ça représente un petit peu ce que Garuda a fait quand il a volé très vite pour se faire petit et échapper au regard du dieu Indra. C'est un petit peu ça en fait. Donc cette faculté de concentrer son énergie pour mieux se déployer par la suite. Donc ça représente la clairvoyance. Hein. Ce n'est pas pour rien que l'aigle est connu et reconnu pour son acuité visuelle. Donc, cette clairvoyance, cette force, cette concentration d'énergie. Et puis enfin, on peut aussi évoquer ce que les yogis appellent la libération spirituelle, dans le sens où il faut le comprendre plus comme la réalisation de son moi profond. Voilà, c'est un petit peu ça qui est évoqué et par son envol et surtout par sa libération hein, de sa condition d'esclave. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'il faut comprendre le sens de la libération. Hein. C'est la libération de nos chaînes et la réalisation de notre moi le plus profond. Voilà pour l'histoire de Garuda. J'espère que qu'elle vous a plu. Je suis pas... Enfin voilà, j'espère vous l'avoir en tout cas raconté avec assez de peps. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode pour une nouvelle histoire. Une nouvelle aventure.